à tous et bienvenue sur la plateforme Microsoft Virtual Academy. Nous démarrons une nouvelle série de cours dédiés spécifiquement à tous ceux qui font aujourd'hui et qui sont des administrateurs Amazon Web Services, donc AWS, qui est basiquement notre concurrent. L'objectif, en fait, et l'idée de cette série de cours, c'est de vous donner simplement les clés, le vocabulaire, pour que vous puissiez faire le pendant dans le monde Microsoft, donc sur notre plateforme Azure, de ce que vous connaissez administrer aujourd'hui de manière régulière dans le monde Amazon. Donc, on ne vous expliquera pas des principes de base générale du cloud ou autre, vous le savez déjà, mais on va essayer de faire simplement des passerelles, de vous venir vous dire, bah voilà, aujourd'hui vous administrez Amazon avec tels outils, bah nous, chez nous, l'équivalent c'est ça. Donc ce premier cours, qui sera relativement pas trop technique et pas très très long non plus, a pour but simplement de vous représenter un petit peu, de vous repositionner ce que c'est que la plateforme Azure, quels sont les outils qu'on utilise et comment on peut administrer le tout. Ensuite, on aura d'autres cours qui arriveront derrière, qui seront focalisés en comparaison les machines virtuelles, comment ça fonctionne chez Microsoft. Donc tous les mécanismes que vous connaissez dans le monde Azure, vous saurez le réappliquer, ou vous connaîtrez l'équivalence en termes d'outils, de limitations ou de fonctions un peu différentes qu'on peut avoir dans Microsoft et de comment les administrer, comment tirer parti. Le tout étant de que vous soyez à l'aise après éventuellement sur les deux plateformes. Je suis accompagné de Arnaud Lheureux.
Bonjour.
Et de Pascal Soulière.
Bonjour.
Donc, l'objectif, voilà, il est vraiment de découvrir cette plateforme Azure. On parlera un petit peu des modèles de déploiement qu'on a de disponibles sur cette plateforme de cloud. Quels services on a et quels services sont disponibles. Un peu notre méthode de tarification, où sont nos centres de données. Et puis, on fera une petite revue des outils d'administration. Alors, les outils, on va dire, plus graphiques, les outils de ligne de commande, et puis les outils tiers, parce qu'on a également un écosystème de partenaires et d'éditeurs qui rajoutent des briques à notre écosystème, exactement comme comme dans le monde de notre concurrent qui est AWS. Donc, si vous êtes un administrateur AWS, ce type de console vous parle. C'est effectivement la console standard qu'on a pour l'administration des web services d'Amazon, donc qui est regroupée en différentes sections. On voit le compute ici, avec les machines virtuelles, le stockage, tout ce qui est base de données, la gestion du réseau, administration sécurité avec les répertoires, la gestion des services, les services mobiles, l'analytique, etc. Donc globalement, on est d'accord qu'Amazon Web Services aujourd'hui est une infrastructure de type, enfin une plateforme de type IaaS, infrastructure de service, également de type PaaS, plateforme as a service. Donc à l'intérieur, je pense que tous ces termes, vous les connaissez, vous les utilisez probablement, donc tout ce qui est montée en charge, scaling, les CDN, les Content Delivery Network, tout ce qui est gestion des backups, les bases de données, la gestion des noms et la réécriture avec les DNS, tout ce qui est stockage, load balancing, monitoring, networking, etc. Donc, basiquement, dans la plateforme Azure Microsoft, on a exactement les mêmes choses. L'idée, ce sera au fur et à mesure de cette série de cours, de prendre chacun des éléments, le compute, les CDN, les bases de données, le stockage, etc., et de vous donner en fait les équivalences, et de vous présenter en gros qu'est-ce qu'on a chez nous en équivalence de ces services-là qui existent chez Amazon Web Services. Donc, si vous êtes aujourd'hui un administrateur AWS, globalement, vos outils d'administration sont multiples, donc on a tous les outils d'Amazon Web Services qui sont référencés ici, vous connaissez le lien, aws.amazon.com/tools. Donc il y a les consoles web qui permettent d'administrer, on vient de le montrer tout à l'heure. Et puis il y a tout ce qui est interface ligne de commande. Donc interface ligne de commande, on a effectivement la AWS Command Line, que vous connaissez certainement bien. Tout ce qui est le SDK basé sur Node.js. Et puis Amazon fournit également des modules pour administrer, plus pour dire pour les gens du monde Windows, pour administrer effectivement la plateforme et les services AWS en PowerShell. Donc ça, c'est plutôt ciblé effectivement sur les administrateurs Windows qui ont déjà l'habitude dans le data center ou dans Azure de piloter, d'industrialiser avec de la ligne de commande PowerShell, de faire la même chose effectivement avec des services AWS. Et puis également, comme on est dans un monde où effectivement le cloud, c'est pas que du pur IT, mais également pas mal de dev, et puis cette frontière entre les deux qui émerge, qui est tout ce qui est DevOps, eh bien on peut également piloter et administrer AWS avec les outils de développement, que ce soit Visual Studio, Eclipse ou autre, avec différents plugins qui vont permettre effectivement de monter, de consommer des ressources dans AWS depuis ces outils de développement. Bon, je vais faire un petit avance sur tout ce qu'on va voir après. Basiquement, on n'est pas très différent, donc on va avoir effectivement des outils graphiques, des outils en ligne de commande, à peu près sur les mêmes technos, et nos outils de dev, ce sera exactement la même chose.
Et bien, où on en est, nous, en matière de solutions de cloud Microsoft, et ben, on a une continuité comme ça entre le monde du cloud public et le monde du cloud privé. C'est-à-dire que si vous voulez un cloud chez vous, dans votre data center, en mode IaaS ou PaaS, on sait vous fournir ça avec Windows Server et System Center, le Cloud OS, les deux produits ensemble. En matière de cloud public, on a différentes offres qui peuvent être du SaaS, comme Office 365 ou Microsoft Dynamics, Windows Intune même, ou Microsoft Intune. Et puis, Azure est là l'offre qui fait vraiment du IaaS, infrastructure de service, et du PaaS. Donc, c'est directement ce dont on est en train de parler, hein, au niveau de l'équivalent avec le monde AWS.
Exactement. Donc, en termes d'outils de langage de programmation, globalement, on est aussi ouvert en termes de support qu'AWS, c'est-à-dire que on supporte très bien historiquement nos environnements et nos frameworks, mais globalement, on est ouvert à tout. On fait comme AWS, on vend de la ressource. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez venir avec vos langages de programmation, vos outils, et consommer les ressources exposées et vendues sur la plateforme Azure. En gros, il va y avoir deux pans, hein, le IaaS, Arnaud.
Le IaaS, bah, c'est tourner à des machines virtuelles. Ça peut être des machines virtuelles Linux ou Windows. Hein, à peu près 20% de machines virtuelles, c'est du Linux, hein, chez nous, par exemple. En gros, c'est exposer comme ça les ressources de base de l'infrastructure, le compute, les machines virtuelles, le stockage et le réseau. Et le PaaS, là, on est dans des choses un petit peu plus élevées dans la stack, où on a directement une plateforme web. Donc on peut venir effectivement exécuter notre code. Hein. Ça peut être effectivement du .NET, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être du Java, du Node.js, du PHP, ce qu'on veut. Ça va être des services de gaming, des cloud services, des services de récupération, des services de données, de stockage, des analytics, la gestion du média, delivery des médias, puis gestion des identités, naturellement, parce qu'on est présent dans le monde de l'identité de manière forte depuis beaucoup de temps, donc avec Azure Active Directory, ce genre de choses, et puis des services de bureau distant, d'exposition d'applications avec les Azure Remote App, tout ça tournant sur une infrastructure Microsoft, des serveurs, Windows Server, dans différents data centers.
Voilà, donc notre socle, en fait, pour cette plateforme de IaaS et de PaaS, c'est Hyper-V. Après, juste démultiplié à une échelle relativement importante, on a également pas mal de méga data centers.
Oui, on a 16 data centers aujourd'hui. La plupart, on voit qu'on en a beaucoup en Amérique du Nord, bon, un en Amérique du Sud, pas mal en Asie et en Australie, et puis deux en Europe, donc ceux qui nous intéressent, qui sont proches de nous. Un qui est à Dublin, qu'on appelle Europe du Nord, dans le jargon Azure, et puis un qui est à Amsterdam, qu'on appelle Europe de l'Ouest, dans la nomenclature Azure. Vous pouvez créer un abonnement d'évaluation Azure, donc si vous voulez aller évaluer tout ce dont on va vous parler dans ce cours, vous pouvez tout à fait le faire via un abonnement gratuit d'évaluation pour un mois. En gros, vous enregistrez sur cette page-là qui est indiquée ici, et vous avez pendant un mois l'équivalent de 150 euros à utiliser en service Azure.
Donc ça veut dire quoi, service Azure ?
Ben, ça veut dire l'ensemble des services dont on a parlé à l'instant, donc les machines virtuelles, les bases de données, les sites web, même Hadoop si vous voulez faire du HD Insight, ce genre de choses-là.
Voilà, au bout d'un mois, ben, les ressources seront...
Ben vous aurez le choix de passer en mode payant, c'est-à-dire de vous abonner réellement, mmh, ou d'arrêter d'utiliser l'essai gratuit, l'évaluation gratuite.
Donc l'idée, effectivement, il est bien de en suivant la grande série de cours qu'on va proposer, là c'est le cours d'introduction, c'est effectivement de pouvoir, vous avez vos connaissances actuelles sur le monde AWS, ben c'est de pouvoir tester sur le monde Azure ce qui vous va, et puis... Et puis directement, avec ce compte où il y a 150 euros, donc largement de quoi alimenter, on va dire, du test, de pouvoir avoir à peu près les équivalences. Et on vous guidera au fur et à mesure des différents cours pour pouvoir créer des machines virtuelles, créer la base de données, créer du stockage, du réseau, etc. Alors, ensuite, on peut se poser la question, et c'est légitime quand on choisit des fournisseurs de cloud, de combien ça va coûter, parce que c'est souvent du paiement à l'usage, c'est-à-dire on paye réellement que ce qu'on consomme.
C'est le principe du cloud, oui.
C'est le principe du cloud, donc pas de frais initiaux, c'est paiement à l'utilisation. Là encore, on a, alors, comme nos amis et concurrents d'AWS, on a une calculatrice, hein, donc c'est le lien est fourni ici, vous avez l'ensemble des services qui sont exposés, et puis vous avez des réglettes qui vous permettent de calculer finement combien va vous coûter une machine virtuelle avec tel dimensionnement besoins hardware, combien va vous coûter du stockage avec telle volumétrie, etc. etc. Ça vous permet de vous donner une idée. De toute façon, globalement, on est très, très similaire par rapport à AWS en termes de prix. Il y a certains éléments, on sera un peu moins cher, eux, ils seront un peu plus chers. Enfin, globalement, on se tient, la concurrence aidant, le seul bénéficiaire là-dedans, ce sera vous en général. Alors, il y a des choses qui sont gratuites également dans Azure. Il y a certains services qui sont dits en mode basique ou en mode standard, qui ont un coût de zéro. Donc, notamment au niveau des sites web, par exemple. Donc là, ils ont des limitations dans leurs éditions standard ou basique, mais ils sont utilisables, entre guillemets, gratuitement. Là encore, ça vaut le coup de regarder ça et de se dire, finalement, peut-être pour certains usages, c'est peut-être bien d'utiliser ces versions gratuites. Ça peut être intéressant. Alors, les outils d'administration pour la plateforme Azure sont assez nombreux finalement. Donc, il y a les principaux qu'on connaît, hein, donc, qu'on préfère en pendant. Le portail d'administration, c'est le pendant de la console d'administration des services AWS qu'on a vu tout à l'heure. Le PowerShell, là, c'est l'équivalent. Le Xplat CLI, on va dire, c'est l'équivalent de
la ligne de commande en Node.js.
Exactement, de la ligne de commande en Node.js d'Azure. Et puis après, on a effectivement nos outils d'administration classiques, hein, System Center. Et puis, on a également tout ce qui est outils de développement, donc Visual Studio, parce que forcément, vous vous doutez bien que Visual Studio est un produit Microsoft, il est forcément très intégré avec Azure. Donc là encore, les développeurs là-dessus s'y retrouvent plutôt pas mal. Puis pas mal d'outils tiers, finalement, derrière.
À quoi ça ressemble tout ça? Ça, c'est le portail entre guillemets historique, le portail de production à l'heure actuelle, le manage.windowsazure.com. On pourra s'y authentifier en utilisant un compte Microsoft, donc ex Live ID, ex Hotmail, etc. Ou utiliser un compte Azure Active Directory, donc qui est lui-même le service d'entité dans Azure. Donc, on a depuis ce portail comme ça l'accès à l'ensemble des services comme le site web, les machines virtuelles, les services mobiles, les différents services de cloud, le stockage, etc. etc.
Vous voyez ici la différence d'Amazon qui présente sur une même page vraiment très sobrement l'ensemble des services alignés comme ça. Nous, on les a mis sur une colonne avec un menu déroulant comme ça. Et effectivement, quand on clique sur les différents éléments, eh bien, du coup, les interfaces sur la partie droite changent et s'adaptent en fait à ce qu'on lui demande. Donc ça, on va dire que c'est le portail actuel. Mm-hmm. C'est ça, Arnaud? Mm-hmm.
Ouais.
Est-ce qu'on a quelque chose qui arrive?
On a le portail d'administration nouvelle génération qui s'appelle portal.azure.com qui est tout à base de carrés et qui va permettre comme ça d'avoir une vision un peu plus sympathique sur les différentes ressources que je suis en train d'utiliser. Donc j'en ai comme ça une vue synoptique sur le premier dashboard comme ça de tout ce qui est en train d'être utilisé, de la disponibilité des différents data centers. Et puis je peux facilement comme ça, basé sur des scénarios, je peux largement profiter des écrans larges avec comme ça une ouverture de panneaux à chaque fois de configuration pour les différentes sections que je vais ouvrir quand je vais créer un site web, une machine virtuelle, etc. etc.
Tu veux peut-être faire une petite démonstration?
On peut se faire une petite démonstration par exemple. On peut aller voir dans ce portail, donc sur ta machine.
Oui, tu peux venir sur ma machine si tu veux, je vais te switcher dessus.
Eh bien, on a effectivement ici l'accueil principal. On va pouvoir comme ça ajouter des nouveaux services. On va dire, voilà, je veux créer par exemple une machine virtuelle. On voit qu'on a les différentes sections où on peut avoir une machine virtuelle qui est entre guillemets standard par défaut, il n'y a pas grand chose installé dessus. Ça peut être du Windows, ça peut être du Linux avec de l'Ubuntu, ça peut être des choses qui sont un petit peu plus évoluées où on va avoir un SQL Server qui sera déjà installé et là je pourrais spécifier dans cette installation de mon SQL Server les paramètres de disponibilité de mon serveur que je voudrais avoir lors de son déploiement.
Là, ce qui est intéressant à retenir peut-être, parce que là, c'est plus de la console qu'on parle, c'est vraiment que la console, on voit qu'à la différence de l'ancien portail, là on ajoute des sections en fait doucement au fur et à mesure qu'on ouvre les propriétés. C'est bien ça.
Alors c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début parce que l'interface est quand même assez riche, mais à chaque fois qu'on sélectionne une partie ici, on va ajouter un panneau sur la droite en fait. Et quand il n'y aura plus de place, on va faire bouger l'écran vers la droite. Donc là par exemple, si on prend l'exemple d'un Windows Server 2012, il me dit voilà, on est en train de créer une machine virtuelle. On va donner le nom de la machine, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et puis là, on aura la possibilité de choisir le mode de la machine virtuelle, donc les performances, basiquement, que je veux avoir pour cette machine. J'ai les choix classique ici, et puis je fais des choix un petit peu plus avancés, où là je peux voir qu'effectivement une machine de type A3 ben, va avoir 4 cœurs, 7 Go de RAM, pour avoir jusqu'à 8 disques de données, chaque disque de données aura 500 I/O par seconde, je pourrais avoir du load balancing pour l'accès, et puis l'autoscale, avoir la possibilité de rajouter des instances pour ce service.
Et puis le tableau de bord qu'on a vu ici au départ en fait est complètement personnalisable. On peut venir épingler des ressources qu'on consomme régulièrement dans ce tableau de bord. Du coup, on le personnalise réellement. On a des graphes sur effectivement combien ça coûte. On a des accès rapides au market et on peut lancer vraiment tout paramétrer pour avoir quelque chose de très visuel. Au passage, on marquait ici également la présence directement dans l'interface dès le départ de l'état de santé de l'ensemble de nos data centers et services associés.
Voilà à quoi ça ressemble.
Voilà. On en reparlera de toute façon et on regardera dans le détail dans les prochains cours. Donc ça, c'est on va dire le futur de l'administration graphique web de notre plateforme.
Ouais. À noter qu'effectivement, à chaque fois qu'on ajoute des nouveaux services, maintenant on va aller privilégier sur ce nouveau portail en plus de l'interface l'interface en ligne de commande.
Bien sûr. Alors, l'interface de ligne de commande PowerShell, Pascal.
Donc il n'y a pas que les interfaces graphiques carrées. Il y a également les lignes de commande. Et la première ligne de commande naturelle pour les administrateurs Windows, classique, hein, historique, c'est PowerShell, qui est l'environnement de scripting et de ligne de commande natif maintenant de Windows depuis quelques versions. Donc, en fait, on a un module PowerShell qui s'appelle le Azure PowerShell, qu'il s'agit de télécharger pour installer dans notre PowerShell. Donc, on va installer ce module et ça va installer un certain nombre de commandes PowerShell pour gérer Azure. Donc c'est disponible sur GitHub ou sur la partie téléchargement à partir du portail qu'on vient de voir dans Azure.
C'est tellement mieux sur GitHub, Pascal.
C'est tellement mieux sur GitHub puisqu'on va pouvoir installer uniquement ce dont on a besoin, c'est-à-dire le module Azure pour PowerShell. Vous avez également un script center, Azure Script Center, qui vous fournit un certain nombre de scripts déjà prêts à l'emploi, des bons exemples pour se familiariser un petit peu avec PowerShell et PowerShell pour Azure.
Un bon informaticien est un informaticien feignant et qui sait réutiliser le travail des autres. Donc c'est bon effectivement des fois de ne pas réinventer la roue. Il y a déjà des squelettes qui existent pour des scripts. Je pense qu'il y a la même chose chez Amazon. Là encore, ça peut vous permettre de faire gagner du temps et de doucement en fait vous mettre dans la culture entre guillemets de la syntaxe de PowerShell pour Azure.
Donc il n'y a pas que des machines Windows pour administrer. Donc si vous avez des machines qui ne sont pas Windows, qui sont par exemple des Mac, des Linux ou ce genre de choses-là, vous pouvez très bien utiliser un autre outil en ligne de commande qu'on appelle Xplat CLI. Alors c'est un nom bien compliqué pour dire
Cross-Platform
Command Line Interface, donc interface ligne de commande. C'est une commande qui est écrite en JavaScript et utilisant Node.js. Donc il suffit d'avoir installé Node.js sur son poste pour pouvoir l'utiliser. Vous le téléchargez à l'adresse GitHub qui est indiquée ici. C'est une commande qui va s'appeler Azure en minuscule. Et vous allez simplement l'utiliser en faisant Azure, une commande et les paramètres de la commande. Par exemple, Azure VM List pour lister l'ensemble des machines virtuelles qui sont dans votre abonnement Azure. Donc c'est assez simple, ça vous permettra d'intégrer des commandes Azure avec d'autres scripts d'administration que vous avez déjà, par exemple en Bash, dans vos environnements d'administration.
Alors si on est développeur, beaucoup de nos développeurs, on travaille chez Microsoft, nous les utilisons Visual Studio. L'intégration de Azure dans Visual Studio est native en fait depuis déjà quelques versions. Donc c'est parfait effectivement pour tout ce qui est test and dev, voire du DevOps avec de la mise en prod directement par les devs. Le développeur peut aller directement au travers du Server Explorer, directement voir même des ressources Azure et aller jusqu'à par exemple provisionner automatiquement une machine virtuelle dans un sous-réseau donné avec un paramétrage donné. Donc ils ont vraiment une vue qui est directement dans leur IDE. Ils n'ont pas à sortir dans d'autres outils pour faire ces opérations parce qu'ils ont l'habitude de travailler en fait simplement dans Visual Studio.
Voilà, puis enfin, si vous voulez l'ensemble des API de management et le SDK Azure, vous pouvez au même endroit où on télécharge, donc c'est le même pointeur qu'on a indiqué deux slides d'avance pour télécharger le module PowerShell. Donc on peut télécharger également l'ensemble du SDK Azure, le cas échéant, si on en a besoin.
Alors, le développeur qui n'est pas sur environnement Visual Studio et qui utilise par exemple Eclipse, eh bien, il y a également des toolkits, des plugins qui existent pour Java et donc pour Eclipse, qui permettent, là encore, aux développeurs, tout en restant dans son IDE en fait, préféré, eh bien, d'aller publier des ressources dans un abonnement Azure, dans un compte de stockage de données, avec des identifiants aux données. donc directement en publication dans Azure depuis l'outil de développeur préféré, de développement préféré des développeurs. Là encore, c'est un GitHub. Alors ce module est fait par une branche, on peut dire ça, de Microsoft, OpenTech.
C'est une filiale,
une filiale indépendante de Microsoft qui s'appelle OpenTech, MS OpenTech, qui est vraiment dédiée à tout ce qui est code libre chez Microsoft à destination des, on va dire des communautés libres, hein, pour faire simple. Et donc c'est MS OpenTech qui a développé ce toolkit. Et donc le téléchargement est disponible ici. System Center, c'est notre grosse gamme de produits d'administration historique. C'est un ensemble d'outils d'administration qui ont différents rôles. Donc on a App Controller qui permet en fait d'être, qui est un portail libre service web permettant d'administrer à la fois des ressources dans les clouds privés, des ressources dans du cloud public comme Azure. On a Orchestrator qui est un, comme son nom l'indique, un orchestrateur et qui a des composants, des Integration Pack, ça s'appelle, qui permettent d'aller faire des opérations directement dans Azure depuis un System Center qui peut opérer dans le data center privé d'entreprise avec derrière des runbooks et des workflows. Operation Manager.
L'outil de supervision, de monitoring d'un environnement. On a évidemment un Management Pack pour Windows Azure qui permettra de voir l'état de santé des différents composants de mon abonnement Azure. Et puis DPM, Data Protection Manager, qui est notre solution de backup d'entreprise. Et on va donc pouvoir faire le backup de notre système informatique en local, mais également d'utiliser Azure pour faire le backup d'un certain nombre d'applications et de services qui sont exécutés dans le data center.
Alors il existe bien entendu pas mal d'outils tiers permettant d'administrer Azure au travers d'autres interfaces. Ici la liste est vraiment non exhaustive, j'en ai juste cité quelques-uns.
Nos petits préférés, on va dire.
Oui, quelques-uns, voilà.
Moi, j'aime bien Celebrata, par exemple.
Celebrata, ils font des bons petits produits, effectivement, dont Azure Explorer, qui est un petit outil permettant d'aller évaluer les comptes de stockage, de les administrer. On a également Azure Watch, New Relic, qui fait du monitoring, si je ne dis pas de bêtises. CloudBerry, qui permet également de gérer la connexion et des traitements d'envoi ou de récupération de copies de fichiers d'informations à destination de cloud comme Azure, mais également d'AWS, à ma connaissance. Donc, ce n'est pas un outil qui est uniquement dédié à Azure. Donc, il y en a plein. Là, c'est juste une liste non exhaustive. Si vous voulez connaître l'état des services Azure, donc exactement comme AWS qui a une page de statut de ses différents services dans ses différents data centers à un instant T, on a la même chose. L'URL est relativement simple à connaître et on peut l'associer. Il y a un flux RSS qui est disponible, donc on peut le mettre dans son lecteur RSS préféré, status.azure.com. Donc on a une belle carte et un état global du système qui va dire si ça se passe bien ou pas. On peut rafraîchir tous les X temps. Et puis après, quand on a un état qui passe en orange, warning, on peut descendre dans le détail et savoir quelle zone ou quelle géographie, quel data center est touché, pour quel service.
Et il y a un historique des événements importants depuis les derniers 90 jours.
Voilà, donc ça permet de montrer en toute transparence l'état de notre plateforme et sa robustesse. Voilà. C'est la conclusion de ce premier module qui était relativement court, mais qui avait vraiment pour objectif de vous donner tous les bons pointeurs pour pouvoir commencer un petit peu à évaluer Azure. Dans les prochains cours, on parlera de machines virtuelles, donc on comparera, on montrera ce qu'on sait faire en termes de machines virtuelles dans Azure, tout en reprenant effectivement vos bases de vocabulaire d'AWS. La même chose pour le stockage, le monde du réseau, les CDN, la gestion d'identité, et puis un petit peu les différentes briques qu'on peut avoir dans une infrastructure de type cloud public. Conclusion, les outils d'administration, Arnaud.
Les différents portails web, le classique et puis le nouveau, PowerShell, le cross-platform command line interface dont Pascal nous a discuté, et puis nos IDE favoris, donc ça peut être Visual Studio, ça peut être Eclipse également, pour lequel il y a les plugins nécessaires. Quelques outils tiers, on a vu quelques-uns parmi ceux qu'on peut mettre en œuvre. Et puis les basiques de la plateforme IaaS, de la plateforme Azure, c'est effectivement du PaaS et du IaaS. Pour le PaaS, des websites, des bases de données, des services de récupération, des services mobiles, la gestion de l'identité comme un service. Et puis les éléments fondamentaux du IaaS, Pascal.
Du IaaS, donc les machines virtuelles, qu'elles soient Windows et Linux, au même titre, et puis le stockage et le réseau. On verra donc dans le détail les réseaux virtuels et les réseaux connexions de réseaux hybrides, etc.
Exactement. Donc, vous pouvez évaluer Azure gratuitement. Vous aurez droit donc à 150 euros de ressources à consommer en 30 jours. La seule condition est d'avoir principalement un compte Microsoft, ex, Hotmail, LiveID ou autre. Si vous voulez évaluer ou comparer le coût de nos services par rapport à ceux que vous connaissez aujourd'hui, que vous utilisez avec son AWS, il y a la calculatrice des coûts, ça vous donnera une idée. Vous verrez qu'il n'y a pas des énormes différences. Sur certains, on est meilleurs, sur d'autres, on est un peu moins bons, mais globalement, on est toujours dans une même échelle, la concurrence ayant du bon. Vous pouvez également nous retrouver sur un IT Camp, donc c'est-à-dire un événement physique où on tourne en France avec mes deux collègues Arnaud et Pascal, donc acadia.ms/itcamp.fr. Donc là, physiquement, vous pouvez nous rencontrer et on peut discuter d'Azure ensemble. On écrit également pas mal d'articles techniques sur nos blogs respectifs. Et puis, vous pouvez également interagir avec nous sur Twitter ou nous suivre sur Twitter avec nos tweeters qui sont ici. Si ce cours vous a intéressé, n'hésitez pas éventuellement à nous pinguer derrière. N'hésitez pas également à revenir pour les prochains cours qui, eux, seront un petit peu plus techniques et vous permettront effectivement de prendre rapidement des compétences sur la plateforme Azure et en vous proposant les équivalences de ce que vous avez aujourd'hui dans le monde AWS, mais dans nos technos à nous. Merci encore de votre temps et à bientôt.